Chapitre 8. La maison magique. Monsieur Smith s'était décidé à venir à Bradley avec le sentiment intime que c'était là, plutôt qu'à Londres, qu'on découvrirait non seulement la cause de la disparition de Monsieur Farrington, mais aussi et surtout l'identité du mystérieux Fallock. Les autorités commençaient à s'inquiéter. Dans le courant d'une seule semaine, il y avait eu ce double meurtre dans la rue, un coup de feu tiré en plein théâtre et un suicide si extraordinaire que le public s'était ému. Sur tout cela, la police n'avait encore rien découvert. En outre, ce vol à main armée aux entrepôts des douanes, suivi de la mort probable d'un des malfaiteurs, avait paru en corrélation avec quelque autre mystère encore inconnu, car il s'agissait par là, très visiblement, d'un vulgaire cambriolage. « Cela ne va pas, » avait dit le préfet de police à M. Smith. « Voici les journaux qui nous accusent d'inintelligence, de faiblesse et d'incurie. Il vous faut agir vigoureusement. »« Oh, je crois que nous pourrons solutionner tous ces mystères d'un seul coup, » dit M. Smith. Je pars aujourd'hui pour Bradley, où se trouve, comme vous savez, une étrange villa, connue dans le pays sous le nom de Maison Magique. Et ce que vous me dites là est assez curieux, répondit vivement le préfet. J'ai vu ce nom ce matin dans un récent rapport du chef de police du district de Bradley. Ah, et que dit ce rapport? Sir Gordon Billings haussa les épaules. « Oh, rien que de très confus, comme tout ce qu'écrivent ces braves campagnards. Il en ressort seulement que le propriétaire de cette fameuse maison magique est un Américain atteint de maladie mentale, comme en témoignent deux certificats de médecin. Un fou, oui, comme tel très protégé par la loi, voilà. » Et moi, qui avais la vague idée d'avoir affaire là avec quelques complices ou amis intimes de Fallock. Vous auriez été déçus. Il n'y a aucun doute, les papiers sont en règle. La folie de cet homme a été reconnue par deux éminents spécialistes. Il est soigné à domicile par un médecin qui est également son secrétaire. Il s'appelle Moule. Le mystère de la maison magique est fort clair. Monsieur Smith resta un instant songeur. En tout cas, dit-il, cela ne peut faire aucun mal d'aller interviewer ce pauvre diable et d'examiner son étrange asile. Il arriva de bonne heure dans l'après-midi à Bradley et fit arrêter sa voiture à quelque distance de la maison du fou. C'était un très grand bâtiment à plusieurs étages, sans aucune prétention architecturale, qui dressait son imposante structure au centre d'un terrain en jachère. Durant plusieurs heures, le détective en observa les environs, les moyens d'approche, les différentes entrées, ainsi que le bâtiment spécial des dynamos qui s'élevait à une centaine de mètres au milieu d'un bouquet d'arbres. Le lendemain matin, il revint et s'approcha plus ouvertement. Cette fois, il s'aventura sur le gravier de l'allée jusqu'auprès de l'entrée principale, alla jusqu'à l'usine et secoua la tête en constatant l'imposant matériel mécanique qu'il semblait utiliser. « Il a de quoi faire marcher un train électrique !» se dit-il. Il aperçut de loin le mécanicien, un borgne orné d'une grande cicatrice qui lui balafrait la joue. Il allait continuer ses investigations lorsqu'il entendit un léger déclic se produire à ses pieds. Instantanément, un gong se retentit et un volet pliant s'abaissa automatiquement sur la fenêtre par laquelle il essayait de regarder. Il se retira juste à temps pour voir le portail se refermer, sans doute sous l'action d'un câble manœuvré de l'intérieur. À sa troisième visite, il alla directement sonner à la porte, mais il avait posté des agents à la grille, car il n'était pas homme à courir des risques inutiles. La porte était à demi cachée par une sorte de rideau, pareil à ces treillis de bambou ou de verroterie que l'on voit au seuil de certaines maisons de campagne ou des pays chauds. Mais ici, c'était des billes d'acier enfilées à des légers fils de métal qui étaient suspendus devant la porte. Cela donnait l'impression que cette porte même était métallique, mais quand elle s'ouvrit, cette sorte de rideau se releva automatiquement comme un rideau de théâtre. Monsieur Smith se trouva en présence d'un homme à face large, pâle, aux yeux inexpressifs. Il était vêtu de noir et avait l'attitude respectueuse d'un valet. « Je suis Monsieur Smith, chef de police, » dit le détective, « et je désirerais voir Monsieur Moule. » L'homme en noir parut hésiter. « Veuillez entrer, » dit-il enfin. Monsieur Smith fut conduit dans un grand salon confortablement meublé. « Je crains, » dit l'homme, « que vous ne puissiez voir Monsieur Moule. Comme vous le savez sans doute, il ne se porte pas bien. Mais si je puis moi-même, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de me conduire auprès de Monsieur Moule. « Puisque vous insistez, » reprit l'homme, « je dois vous dire que je suis le secrétaire de Monsieur Moule et son médecin, Dr. Fall. » Et c'est dans cette qualité que je vous serai reconnaissant de me dire quel est l'objet de votre visite. Non, je ne puis l'exposer qu'à Monsieur Moule. Le docteur s'inclina. Veuillez donc me suivre. Il guida Monsieur Smith dans le hall jusqu'à la porte d'un ascenseur qu'il ouvrit. Après vous, fit le détective. Le docteur Fall sourit et entra le premier. L'ascenseur s'arrêta au troisième étage. Oh, « Cela ressemble à un hôtel, » pensa Smith. En effet, de droite et de gauche partaient deux corridors pourvus de tapis où s'ouvraient des portes à intervalles réguliers. Ils prirent le corridor de gauche et, à son extrémité, le docteur ouvrit une porte de palissandre doublée d'une seconde porte d'où ils passèrent dans une grande chambre presque nue. Cette pièce était pourvue de jolies boiseries. Un épais tapis bleu en occupait le centre et au milieu était dressé un petit lit en métal plaqué d'argent. Mais ce ne fut pas à ces détails non plus qu'au guéridon laqué et au lustre électrique que se porta toute l'attention du détective. Car il y avait un homme couché dans ce lit. Un homme au teint jaunâtre et cireux, immobile comme un mannequin, et dont seule la respiration régulière manifestait la vie. Monsieur Smith estima qu'il devait avoir près de 70 ans. Il parut se réveiller à l'entrée des deux hommes, et il ouvrit des yeux brillants. « Voici Monsieur Moule, » dit l'aimable secrétaire. « Oh, je crains que sa conversation ne vous apporte pas grande lumière. » Monsieur Smith s'approcha et salua le malade de la tête, mais l'autre ne bougea pas. « Comment allez-vous, Monsieur Moule ? J'arrive de Londres pour vous voir. » Rien encore ne manifesta le moindre intérêt chez l'homme prostré là. « Mais comment vous appelez-vous ? » dit Smith tout à coup. Alors une lueur d'intelligence parut dans ses yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et d'une voix rauque, il répondit « Jim Moule, le pauvre Jim Moule, qui n'a rien fait !» Puis ses regards craintifs se portèrent sur le docteur et ses lèvres se resserrèrent fermement. Monsieur Smith ne put le faire parler davantage. Quelques instants après, les deux hommes sortirent de la chambre du malade. « Vous voyez, » dit le docteur Fall, « que Monsieur Moule n'est vraiment pas capable de soutenir une longue conversation. »« Mais en effet, » admit Monsieur Smith, « C'est un millionnaire américain, n'est-ce pas? Oui. Il n'a pas l'accent américain. Et malgré tous les troubles que peut causer son état mental, oh, rien n'explique un pareil phénomène. Quel phénomène? Ben, que ce millionnaire américain, qui a reçu sans doute une éducation soignée, parle comme un paysan du Somerset. Que voulez-vous dire? Oh, pas autre chose que ce que j'ai dit. Cet homme roule les airs comme un Somerset et visiblement il n'a pas reçu grande éducation. On n'a pas l'impression d'avoir devant soi un millionnaire américain. C'est que sans doute, monsieur Smith, vous n'êtes pas habitué aux effets divers que peuvent avoir les maladies mentales. Autrement, vous sauriez qu'on observe souvent chez ces pauvres démons des déformations bien autrement importantes que celles de leur accent ou de leur manière. Il se dirigeait vers l'ascenseur, mais monsieur Smith déclina l'invite. Oh, je préfère descendre par les escaliers, dit-il. En fait, il désirait mieux connaître la disposition intérieure du logis. Le docteur Fall ne fit aucune objection et ils prirent par les escaliers recouverts d'épais tapis. Je ne suis pas sans connaître quelque chose aux symptômes de la folie, dit encore M. Smith, et spécialement à ceux qui consistent à massacrer les airs. Vous plaisantez, répondit le docteur en fronçant du sourcil. Mais rappelez-vous que je suis médecin. Je sais, vous êtes américain et avez pris vos diplômes en Pennsylvanie. Vous êtes venu en Angleterre il y a quelques années, à bord du Lucania. Vous quittiez rapidement New York à la suite d'un scandale auquel vous étiez mêlé. En fait, il est beaucoup plus facile de savoir ce que vous avez fait depuis lors que d'obtenir des renseignements exacts sur la personnalité de M. Bull, qui est absolument inconnu de l'ambassade américaine. La large face du docteur s'empourpra. Oh, vous dépassez la mesure en rappelant des faits dont j'ai été la victime malheureuse, dit-il avec une feinte humilité. Peut-être, fit le détective. Il salua et sortit. À la grille, il rejoignit les deux autres policiers, parmi lesquels se trouvait son collègue Ella. Qu'avez-vous découvert? Lui demanda ce dernier. Bien des choses qui nous seront sans doute utiles plus tard, répondit Smith en montant en voiture. Puis il se tourna vers le troisième inspecteur. Vous feriez bien de rester ici, lui dit-il, et d'observer attentivement qui entre ou sort. Je reviendrai dans une couple d'heures. L'homme salua et l'auto démarra. J'ai une autre visite à faire, dit Smith, et je crois qu'il est préférable que je la fasse seule. Dites au chauffeur de me conduire à la cure. Lady Constance Dex s'attendait à la visite du chef de police, car elle l'avait vu passer en auto dans la direction de la maison magique. Elle le reçut donc aussitôt. Je viens, lui dit-il, de voir un homme qui est, je crois, de vos amis. Vous parlez de Monsieur Moule? Oui. Elle garda un moment de silence, débattant évidemment en elle-même si elle ferait de plus amples confidences à M. Smith. Enfin, elle prit son parti. Je crois qu'il vaut mieux que vous en sachiez davantage, dit-elle enfin. Et si vous voulez bien prendre la peine de vous asseoir, j'ajouterai quelques renseignements à ceux que je vous ai donnés l'autre jour. Je vous écoute, madame. Oui, je vais souvent chez M. Moule, reprit-elle d'un ton déterminé, mais les yeux fixés sur les fenêtres donnant sur le jardin. Oui, je vous ai dit que j'avais été fiancée avec un homme que j'aimais infiniment. Il s'appelait George Dawson. Vous connaissez son fils, sans doute. Oui, madame. Oh, ce fut une de ces passions soudaines et invincibles qui remplissent la vie. Georges était un veuf, aimable, généreux, délicieux. Brave aussi, comme vous pouvez l'inférer d'après ses exploits d'explorateur. Je l'avais rencontré à Londres. Il me présenta, dès les premiers jours, à M. Farrington, qui était son ami. Et quand M. Farrington loua une maison de campagne ici, à Bradley, George y fut invité, et c'est là que j'appris à le mieux connaître et à l'aimer toujours davantage. Elle s'arrêta comme pour reprendre haleine. « Nous nous aimions, » reprit-elle avec une énergie nouvelle. « Notre mariage était fixé au jour même où il s'embarqua pour l'Afrique. » George Doveton était l'incarnation même de l'homme d'honneur, de l'homme chevaleresque à qui tout scandale est en abomination. Il était comme l'un de ces chevaliers d'autrefois qui avaient une magnifique conception de la femme et de sa pureté, qui n'aurait jamais accepté nos compromissions modernes, nos idées sur le divorce, par exemple, surtout en cas de doute sur la fidélité de l'épouse. Et la voix de Lady Constance s'altéra. Elle était en proie à la plus douloureuse émotion, mais elle se recueillit une seconde et reprit. Oh, pourquoi n'irais-je pas jusqu'au bout de cette confession qui n'a rien, vous entendez rien de déshonorant pour moi? J'avais épousé, étant encore une enfant presque, un homme froid, rigide, sans cœur. Alors, dans mon inexpérience, j'avais commis une folie. Je m'étais laissé enlever par un jeune imbécile, qui d'ailleurs ne me fut jamais rien. Mon mari n'eut pas de peine à obtenir le divorce contre moi. Tout cela, oh, n'importe. Mais quand un peu plus tard, je me suis mis à aimer George Doveton, je commençais à trembler qu'il n'a pris les détails de ce terrible passé où toutes les apparences m'avaient donné tort. Et comme j'avais raison de craindre. 2 jours avant notre mariage, il me quitta sans un mot d'explication, de regret, d'adieu, non, rien. J'appris plus tard qu'il s'était immédiatement embarqué pour l'Afrique. Il ne m'a jamais plus donné de ses nouvelles. Elle acheva ces derniers mots d'une voix à peine perceptible. M. Smith observa un silence sympathique. Il était impossible de douter une seconde de la sincérité de cet aveu douloureux. Elle reprit au bout d'un moment. « C'est M. Farrington qui me fit faire la connaissance du docteur Fall. Pourquoi ?» demanda vivement le détective. Bon, « je n'ai compris ses véritables raisons que tout dernièrement, » dit-elle. De prime abord, je crus que M. Fall, ayant des intérêts en Afrique, pourrait m'aider à retrouver George Doveton. Je me rattachais au plus chétif espoir. Oh, je retournais souvent voir le docteur et fus ainsi la seule étrangère admise dans cette extraordinaire maison. » Mais mes visites ne paraissaient pas sans résultat. Je pus savoir dans quel parage se trouvait mon fiancé. Je pus même lui envoyer des messages qui devaient l'atteindre sûrement. Je sais maintenant que M. Farrington avait des spéciales raisons en me faisant faire la connaissance du docteur Fall. Il voulait surveiller mes tentatives et m'empêcher de communiquer directement avec George Doveton. Telle est toute l'histoire de mes relations avec la maison magique. Je n'y ai vu M. Moule qu'une seule fois. Et Farrington? Oh, je n'ai jamais rencontré M. Farrington dans cette maison, répondit-elle. Ou Montag Fallock? Elle releva les sourcils. Montag Fallock, dit-elle lentement. « Eh bien, lui aussi savait mon histoire, et c'est lui qui m'a tellement fait trembler durant mes fiançailles avec Georges. »« Ah, vous ne m'aviez pas dit cela. »« Oh, c'est bien simple. Quelqu'un me menaçait constamment de tout révéler à Georges. »« Ce quelqu'un a mis enfin ses menaces à exécution. Et c'était Falloc. Il exigeait des sommes impossibles. Je lui ai abandonné une partie de ma fortune, mais à la fin, je n'ai plus pu le satisfaire. Elle se leva et fit quelques pas dans la chambre. Oh, je n'en ai pas fini avec ce Montague Falloc, conclut-elle d'une voix impérieuse. Bien que très pâle et brisée par l'émotion, elle eut une étrange lueur aux yeux à ce moment. Oh, je pourrais vous en dire bien davantage, monsieur Smith, et cela vous permettrait peut-être de mettre la main sur le plus affreux bandit qui ait jamais existé. Alors, pourquoi ne pas achever ? Parce que, dit-elle avec un sourire glacé, j'ai des projets personnels pour châtier l'homme qui a assassiné mon fiancé et brisé ma vie. Quand l'heure de la mort sonnera pour Montague Falloc, ce sera moi qui l'exécuterai.